France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Qui succédera à Kamel Daoud? Si tout va bien, dans une heure, nous connaîtrons le nom de la lauréate ou du lauréat du 123e prix Goncourt. On commentera cette annonce et on fera le point sur les enjeux de ce prix littéraire avec mes invités. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critiques. Aujourd'hui, les questions de bande dessinée avec Funestes Amours de Charles Burns, la réédition du manga mythique Gen au pied nu de Keiji Nakazawa et puis Vieille de Delphine Panic. Vous écoutez les midis de culture, drôle d'endroit pour une rencontre. Et pour débattre autour de la table, Catherine Robin, grand reporter et critique de BD. À elle, bonjour.
Bonjour Marie.
Joseph Gosne, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
Calling Enola Gay, weather's fair and clear over Hiroshima, condition favorable for bombing. Roger Enola Gay, getting ready to drop on target.
Et on commence avec un incontournable, un classique majeur, Gen au pied nu du japonais Keiji Nakazawa, dont les 10 tomes sont réédités par le Tripode. Créé entre 1973 et 1985, ces mangas constituent un témoignage sidérant des survivants de la bombe d'Hiroshima. Au début du premier tome, Gen est un petit garçon dans le Japon en guerre. Son père est un fervent pacifiste et sa famille est l'objet de mépris. Mais surtout, ils ont faim. Constamment. Quand Little Boy est largué sur sa ville, son père, un de ses frères et sa sœur périssent dans le feu. Les pages qui décrivent les dégâts de la bombe, les corps suppliciés, l'horreur sont terribles mais nécessaires. Le premier et le deuxième tome sont déjà disponibles. Les autres sortiront au rythme d'un tome tous les 2 mois. Joseph Gosne.
Que dire quand on a face à soi une nouvelle édition? C'est la troisième en France. Il y a eu une première tentative dans les années 80, puis ensuite une tentative complète dans les années 2000, et maintenant celle-ci. Que dire quand on est face à un chef-d'œuvre annoncé? Parce que c'est un peu ça. Hein, c'est un chef-d'œuvre. Et comment le lire aujourd'hui? C'est aussi la question qu'on se pose. Comment lire quelque chose qui décrit aussi bien et aussi de façon aussi pointilliste même, l'horreur telle qu'elle est vécue par ceux qui la subissent, c'est-à-dire l'horreur du bombardement ultime, le bombardement atomique. Ce qui m'a intéressé, ça a été d'aller revoir comment déjà ce livre s'inscrit dans l'historiographie de la bombe dans la culture japonaise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on dirait un livre pour enfants, puisque ce qu'on voit, c'est effectivement l'histoire d'un gamin dessiné un peu comme étaient dessinés les mangas pour gamins, de façon comme ça, presque un peu grotesque, un peu grossière. Sauf que ça s'inscrit dans un mouvement, je crois, qui va au-delà du manga et qui commence dès les années 50, en 1958, le photographe Ken Domon documente les survivants de la bombe atomique, notamment d'Hiroshima, et on voit déjà des gamins qui sont passés par ça, des corps suppliciés, des corps blessés, des corps vraiment meurtris par la bombe. Ensuite, il y a Kikuji Kawada qui fait aussi un travail de photographie sur les décombres. Etc. Tomatsu aussi. Il y a comme ça des représentations qui arrivent dans les années 50 et 60 de ce qu'a été cette horreur-là. Des représentations à la fois des lieux et des corps. Et donc, quand Gen arrive, on est en plein dans cette idée qu'il faut montrer les choses, je crois. Et la façon dont la montrer là, c'est une façon qui est, je trouve, extrêmement précise dans le détail de ce que la guerre fait de vous, déjà, parce que comme vous le disiez, on rentre dans cette famille avec ce début de guerre. Il y a quand même pas mal, beaucoup de pages dans le premier tome avant qu'arrive la bombe. Et là, on voit effectivement une famille qui a faim, avec un père qui tabasse ses enfants dès qu'ils font une bêtise. Et on se rend compte que cette violence-là, elle est aussi provoquée par la guerre. Elle est aussi provoquée par le fait d'un pays qui est en guerre. Que la violence, elle est partout, qu'il y a la tension partout, et que cette tension, elle ne peut se décharger que dans ces mandales-là, que dans cette tension, que dans les conneries que font les gamins d'un côté, et la violence que le père met là, alors qu'il est lui-même pacifiste. Et ensuite, il y a la bombe. Et à partir de là, évidemment, tout change. Et on est vraiment confronté à l'horreur. C'est-à-dire que la façon de dessiner les corps, de dessiner, même il y a cette page qui est extrêmement symbolique, cette page d'un cheval perdu dans la ville, qui est en train de cramer quasiment. Cette façon de dessiner l'horreur, elle est d'un coup, elle pose vraiment ça et elle ouvre, je crois, une forme de modernité dans le manga et dans le monde dessiné en général. Elle survient au même moment où Art Spiegelman commence à travailler sur Mouse. Donc on est vraiment dans ce moment de l'historiographie en bande dessinée qui dit voilà comment on doit raconter ce que nous avons subi.
Alors comment on le regarde aujourd'hui, Catherine Robin?
De la même manière que quand je l'avais découvert au moment de sa parution chez Vertige Graphique dans les années 2000, où ça a été un choc, qu'elle est vraiment un grand bouleversement pour moi. Et donc on peut, il y a eu en effet une retraduction. Le format est pas tout à fait le même, c'est un peu plus petit, mais c'est plus grand qu'un manga pour enfants tel qu'on les imagine et tel qu'on les connaît. Mais je voulais juste réagir à ce que disait Joseph sur ces représentations, la représentation de la bombe dans l'historiographie en effet japonaise. Parce que je pense qu'il y a à la fois ce côté méta que vous décrivez sur la culture japonaise et qu'elles ont. Je pense que pendant longtemps, ça a été très difficile d'évoquer la bombe pour les artistes japonais. Ce qu'il faut qu'on précise, c'est que c'est vraiment la vie réelle de Keiji Nakazawa. Absolument. C'est-à-dire que lui est né en 1939 à Hiroshima. Il avait ils étaient quatre garçons, deux filles. Il a perdu son père, qui était en effet un artiste pacifiste qui dessinait des dessins sur les guettas, qui sont les outils, les sandales en semelles de bois traditionnelles japonaises. Et que il y a à la fois cette dimension que vous décrivez, Joseph, mais il y a aussi cette dimension à hauteur d'homme. C'est ça aussi qui est très puissant. Moi, j'avais oublié quand même. Vous me demandiez comment on la lisait aujourd'hui. J'avais oublié le nationalisme, le jusqu'au boutisme japonais de l'époque. Et tout le premier tome, la guerre explose vers la fin du premier tome. La bombe explose vers la fin du premier tome. Et avant, c'est vraiment la description de cette société japonaise hyper nationaliste, raciste à l'égard des Coréens, des Chinois, qui refuse absolument de voir ce qui va advenir, c'est-à-dire la défaite. Et les pacifistes, dans ce contexte, sont des oiseaux de mauvais augure qui leur annoncent la capitulation à venir et qui n'arrivera même pas d'ailleurs après le 6 août 45 au moment d'Hiroshima, mais qui arrivera après la deuxième bombe atomique. Et en fait, ce qui est important, c'est que de la même manière qu'Art Spiegelman, quand il a publié Mouse, il y a eu beaucoup de réticence de la part de certains lecteurs de se dire mais comment ça, on peut parler de la Shoah en dessinant des souris et des chats par l'intermédiaire de la bande dessinée, mais enfin, quel scandale. Eh ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne lisent pas de mangas, ont des idées préconçues sur les mangas et vont se dire non, c'est pas pour moi, je ne peux pas. Et d'ailleurs, j'ai pas envie d'aller. Et par ailleurs, c'est un sujet très difficile et je ne veux pas y aller. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment dépasser ces a priori, ces préjugés sur ce dessin. Il le dit, Art Spiegelman, puisqu'il
qui fait la préface.
Voilà,
ouais.
Il écrit la préface et il dit qu'au départ, il a été un peu rebuté par ses grands yeux. Et d'ailleurs, il dit quelque chose que j'ignorais moi-même, c'est que ses grands yeux, ils viennent de Tezuka. Enfin, Joseph, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais c'est notamment de Tezuka et de son Astro Boy, et que lui-même s'était inspiré de Walt Disney. Exactement. Donc finalement, tout ça, faut dépasser ses préjugés et ses a priori, mais avec en ayant conscience que c'est une lecture difficile.
Mm-hmm. Ouais. Joseph Gosse.
C'est aussi un moment. Cette bande dessinée, enfin ce manga, arrive aussi au moment où la bande dessinée japonaise instaure un nouveau format, un nouveau genre, qui est le genre de la bande dessinée pour adultes. Et on est à ce moment-là, dès les années 60, dans des revues comme Garo, avec des auteurs comme Yoshihiro Tsuge, confrontés aux états d'âme des Japonais d'après-guerre. En gros, on est vraiment dans cette idée-là, mais on ne représente pas forcément la guerre. On voit un peu ses conséquences psychologiques, etc. Tsugi était très fort pour ça, mais on ne voit pas ce que ça a vraiment été la guerre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans Gen, on voit à travers l'enfant et à travers le dessin destiné à l'enfance la façon de représenter la guerre et ce qu'elle fait de vous et la violence. Et ce qui est vraiment assez, comment dire, unique dans ce, non, et que le manga permet, c'est le temps. le temps, ce temps du récit, puisque le manga effectivement prend son temps, ça décortique l'histoire, ça va très très loin dans la façon de raconter, dans les détails, et on voit exactement ce qui se passe. On voit vraiment le quotidien de ce garçon, et ça pose la question de cet individu, ce gamin, au milieu de cette société. Et cette société qui a l'air comme ça d'être effectivement nationaliste, très unie, et ce que Nakazawa fait, c'est en quelque sorte, c'est raconter une société, la dénoncer aussi, et montrer comment on essaye de survivre, comment un gamin, un peu un individu, arrive à survivre dans ce marasme-là. Ça a été pas mal critiqué, dans le sens où il met quand même beaucoup de choses sur le dos des Japonais, sur le dos du Japon, du nationalisme, etc., en se démarquant sans doute un peu des Américains qui sont des agresseurs mais qu'on ne voit peut-être pas forcément. Donc il y a aujourd'hui, en fait, quand on la lit aujourd'hui, il y a ce débat là sur ce débat qui est responsable. Est-ce que la responsabilité vient de l'intérieur? Est-ce que les Japonais jusqu'au boutiste n'ont pas aussi entraîné la bombe, ou est-ce que ce ne sont les Américains? Et en ce sens-là, le débat aujourd'hui est extrêmement contemporain, puisqu'on est dans un monde qui est submergé de guerre, avec des responsabilités qui sont partagées ou qui sont discutées dans tous les sens. En ce sens-là, Gen est effectivement quelque chose d'extrêmement contemporain, et notamment sur la question de la bombe atomique. Comment on l'utilise ?
Gen au pied nu de Keiji Nakazawa, sur une traduction de Vincent Zuzulskovs au Tripode, sorti le 2 octobre.
Tiens, voilà la vieille qui passe là-bas. Tiens, voilà la vieille qui sort du grand bois. Ah, quelle merveille, la vieille, la vieille. Ah, quelle merveille, cette vieille-là.
On ne sait pas comment elle s'appelle, ni quel âge elle a, elle est vieille, voilà. Et elle prend un certain plaisir à emmerder les plus jeunes qu'elle. Tout sauf une gentille mamie, mais au fond de cette vieille, au corps et au souvenir qui se délite, il y a une femme, critique et terriblement consciente. Le titre de cette BD de Delphine Panique, vieille, tout simplement. Et ça paraît chez Misma vendredi prochain. Catherine Robin.
Mais c'est une BD que j'ai trouvée assez géniale et très culottée, hein, de s'attaquer à cette figure de la vieille. C'est déjà un très bel objet avec une couverture cartonnée très jolie, malgré des couleurs peu aimables, hein, ce marron, ce rouge et ces formes un peu intestinales, je dirais, ou autre chose. Mais donc c'est l'histoire d'une vieille qui, comme vous le disiez, n'a plus rien à prouver, qui s'en balèque, comme dirait une autre héroïne de bande dessinée qui se situe à l'autre côté de l'autre côté de la pyramide des âges. Et cette vieille dame là, bah, elle ressemble plus à grand chose, hein. C'est une sorte de silhouette ridée, lourde, informe. Elle vit seule avec un chat. Elle entend parler les chiens. Elle râle beaucoup. Elle en a marre des gens qui la regardent pas, parce que c'est une BD vraiment sur le regard, sur notre regard, sur ces personnes âgées que nous allons possiblement devenir un jour. Voilà, elle méprise une partie du monde qui l'entoure, mais peut-être encore une fois parce qu'elle se pense persuadée de ne plus être digne d'intérêt. Et pourtant, elle a une vie intérieure très très riche, et c'est ce que va nous donner à voir Delphine Panique, et c'est ça qui est très touchant et souvent très drôle. On voit que c'est une femme encore très désirante. Elle raconte ses désirs, ses fantasmes qui sont toujours présents, et c'est bien quelque chose de tabou, la sexualité des vieilles personnes. Elle raconte aussi ses angoisses à l'idée de mourir. Elle s'imagine des scénarios romanesques sur sa mort en Italie, au Japon, à côté de jeunes éphèbes qui l'accompagneront sur la voie de l'éternité, voilà. Et j'adore aussi ces plongées dans ces souvenirs qui sont transformés par justement l'altération de son corps et les modifications de ses sens liées au vieillissement, où elle dit, ce sont des petites histoires de deux, trois pages, parfois une page. Et là, c'est une histoire qui s'appelle La marche lente, où elle dit qu'elle marche très lentement et qu'elle a le sentiment que parfois qu'elle marche si lentement qu'elle a un sentiment de reculer. Et puis donc, ça va la faire revenir dans son enfance. Cette marche lente lui permet aussi de regarder les choses avec attention, mais comme elle est vieille, son regard est devenu flou, son audition est devenue plus sourde, et donc ça lui permet de se réinventer des souvenirs. Elle dit qu'elle a une possibilité de vie passée infinie parce qu'elle revisite sans cesse, du fait de l'altération de ses sens, ses propres souvenirs, et je trouve ça très joli comme idée. Et comme je le disais tout à l'heure sur la couverture, on passe du plus prosaïque au plus poétique, hein. Elle pète sur les gens qui l'ennuient, et en même temps, elle est capable de s'émerveiller dans une grotte qui lui ressemble, toute ridée et qui, comme elle, a traversé les âges. J'aime bien cette idée de ruine. Elle a aussi cette idée, elle aimerait être contemplée comme une vieille ruine, enfin comme une ruine antique ou comme une ruine industrielle.
Une ruine admirable.
Exactement. Et en la regardant, on pourrait réfléchir au temps qui passe et à ce qui nous attend tous.
Joseph Gosne.
Oui, enfin que rajouter. Moi, je trouve que c'est presque un livre, enfin très drôle déjà, très drôle, très comique, très cynique, avec beaucoup d'ironie aussi. C'est presque aussi un manuel de philosophie parce que effectivement au début, le livre commence vraiment sur des choses très mécaniques, c'est-à-dire sur ce corps, la façon dont elle se déploie, etc. Pour arriver finalement sur une réflexion assez intense, assez juste sur la mort, la vieillesse et donc la mort et donc comment on s'en va, qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de laisser, et aussi comment, en arrivant vers ça, comment on regarde les autres. Il y a ce passage où sa fille vient la voir, sa fille qui est un tout petit peu moins vieille qu'elle, et elle dit, elle vient me narguer, elle est belle, etc.
Avec sa jeunesse, elle vient me narguer.
Voilà.
Donc, alors qu'elle doit avoir 70 ans dans l'histoire.
Exactement. Maintenant. Et donc c'est très drôle, et c'est aussi ça relativise beaucoup de choses. Ensuite, formellement, moi je trouve ça vraiment très intéressant, très touchant. Elle part. Quand j'ai commencé à lire le livre, ça m'a rappelé des choses de dessinateurs des années 80, comme Mark Beyer, des dessinateurs américains issus notamment du dessin un peu punk, c'est-à-dire avec des traits, des choses comme ça, des choses qui tournent, un peu ce côté un peu intestin qui forme des personnages. Donc il y a beaucoup ça. Mais surtout, ce qui m'a passionné, c'est le fait que ce personnage de vieille, ce personnage un peu finalement un peu informe, prend toute la place. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il prend toute la place, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Toutes les planches, tout est construit comme ça, même les grandes pages où il n'y a qu'un seul dessin, ou alors les constructions avec des toutes petites cases, etc. Elle est tout le temps là, et c'est vraiment une déclinaison de ce corps, et la façon dont ce corps, finalement, finit par habiter le monde d'une façon à la fois totalement narcissique et totalement exclusive.
On pourrait penser à Carmen Cru, il y a 30
oui, absolument,
ans.
Absolument.
Mais c'est beaucoup plus délicat.
C'est extrêmement délicat, ouais. C'est-à-dire que c'est ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que, en arrivant vers une vision un peu philosophique, il y a beaucoup de délicatesse vers la fin. Et on est assez emporté par cette sensibilité qu'on sent dans les dernières pages.
Parce qu'elle elle occupe la page et elle nous regarde beaucoup, elle nous interpelle. Et comme si elle était elle-même, elle avait pris son autonomie, elle était contente que la dessinatrice la dessine et qu'elle soit là et qu'elle occupe cette page. Parce qu'en effet, c'est surtout finalement une BD sur la solitude. Hein. Elle parle quand même beaucoup de cette question de la solitude et la solitude des vieux derrière les murs de leur EHPAD ou ces vieilles personnes qui ne parlent à personne pendant des semaines et des semaines. Ils existent et elle n'en fait pas du tout un drame, mais elle donne quand même de la matière à réfléchir à cette question de la solitude. Il y a cette planche sur une page qui s'appelle « Main dans la main », qui est à la fois très touchante et en même temps pathétique, où elle est allongée sur son lit, elle dit « j'aime bien m'endormir en me prenant la main ». Et donc elle prend ses deux mains ensemble, et elle dit que comme ça, elle a le sentiment d'avoir un contact humain. Donc c'est à la fois très triste, mais en même temps assez touchant, et par-delà le rire, les sorties un peu scatologiques que la dessinatrice fait, il y a quelque chose de vraiment très juste et très vieux, très juste et très beau sur les vieux, en fait. Voilà, derrière leur corps en décrépitude, on peut accéder assez vite, si on s'en donne la peine, à l'âme d'enfant, à la femme désirante, à cette altérité qui est nourrie de ses expériences, de ce qu'elle a éprouvé, de ce qu'elle a traversé, etc.
Vieille, de Delphine Panic, qui sort vendredi prochain chez Misma. Un nouveau livre de Charles Burns, c'est toujours un événement pour les fans, même quand il s'agit d'un album aux dimensions très modestes, en l'occurrence. Avec Funestes Amours, l'auteur de l'inoubliable Black Hole nous entraîne dans l'univers des comics de romance des années 50. Évidemment, avec son noir et blanc puissant, il en fait plus un cauchemar qu'une bluette à l'eau de rose. Mais tout de même, ce livre est le pendant de Caprice, album où il imaginait une trentaine de couvertures de comics fictifs. Pardon, Catherine Robin.
C'est moi qui commence.
C'est vous qui commencez sur Charles Burns.
Ben moi, je pense qu'il faut vraiment être un adepte de Charles Burns. J'ai vraiment tourné ce livre dans tous les sens.
Petit livre, hein, 32
petit
pages.
Petit livre, mais qui m'a donné du fil à retordre pour essayer de comprendre, en fait, de comprendre où il était et où je pouvais me positionner moi-même par rapport à lui. Donc peut-être que Joseph va m'expliquer.
Allez,
mais je veux quand même dire que de ce que j'ai cru comprendre, c'est un exercice de style pour lui. Hein. Il prend des couvertures et il imagine les histoires qui sont derrière dans ce noir et blanc magnifique qu'il maîtrise comme personne, qui est sa marque de fabrique. Mais en revanche, sur le fond, j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi cet homme est né dans les années 50, il a 70 ans aujourd'hui, il a, dans sa jeunesse, lu ses comics de romance, donc à l'eau de rose, certains miroirs de l'Amérique puritaine, etc., qui étaient... Et là, il essaye d'en faire nous expliquer que c'est la mauvaise conscience de la société américaine qui réside dans ces comics-là. Moi, j'ai eu du mal je sais pas si c'est un hommage, je sais pas si c'est quelque chose pour décaler, si c'est quelque chose pour déconstruire. Et résultat, j'étais perdue et peut-être possiblement trop au premier degré pour pouvoir accéder à son discours, quoi.
Joseph Gosnell, est-ce qu'il est cynique? Est-ce qu'il se moque profondément, ou est-ce qu'il est lui-même fan de cette esthétique?
Je crois pas qu'il y ait du cynisme chez Burns. Pardon, ou de la moquerie. Je crois que ce livre, qui évidemment, comme vous le dites, est un livre court, arrive après des cycles très longs qui ont été entamés avec Black Hole dans les années 90 et 2000, et puis ensuite deux autres trilogies dans lesquelles il explorait déjà pas mal d'obsessions. Black Hole, c'est son obsession pour, en tout cas, c'est une revisitation du comics de super-héros, c'est-à-dire des gamins qui ont muté. Ensuite, c'était une obsession pour Tintin. Là, on est vraiment dans cette obsession du trait, de la façon de raconter des histoires des années 50 dans un moment assez particulier qui était le moment des romances, des comics de romances, qui se situe entre la fin de la première vague de super-héros, celle des années 30 et 40, qui se termine, qui ne marche plus, et l'arrivée d'une deuxième dans les années 60 avec l'émergence de Marvel Comics. Entre-temps, il y a ces comics de romances qui sont faits par les mêmes, hein, c'est Jack Kirby, etc., qui dessine et qui dessinera ensuite les super-héros, alors qu'ils avaient déjà dessiné avant. Donc on est dans ce même trait-là, et Burns a une obsession pour ces gens-là. Il a une obsession pour ces auteurs-là. Il y a des petits livres de lui, des petits carnets reproduits, où il reproduit les traits, il refait un peu les dessins. Il s'intéresse vraiment à la façon de faire. Donc là on est vraiment dans cette obsession-là. L'obsession de qu'est-ce que c'était que ces comics-là, et qu'est-ce qu'il racontait de la société américaine. Ensuite, moi, ce qui me passionne, c'est qu'effectivement, c'est un exercice court, c'est un exercice de style. C'est un comics un peu à l'ancienne, effectivement, avec plusieurs histoires, comme il y en avait dans ces comics-là. Sauf que ces histoires, pour moi, elles se répondent, elles se font écho. Elles se font notamment écho sur la façon de ne pas les comprendre. Et c'est ça, en fait, qui est assez fascinant. C'est-à-dire que, on est dans des histoires, dans des récits qui sont censés être extrêmement clairs, des histoires d'amour. Une fille rencontre un garçon,
des histoires d'amour.
Toutes choses égales par ailleurs, et dans les comics des années 50. Mais là, il reproduit ce schéma-là en faisant totalement autre chose. Et on retrouve ces obsessions pour des auteurs beaucoup plus, des auteurs comme William Burroughs qui introduisent quasiment de l'acide dans les récits. Donc on est vraiment dans cette idée-là, dans l'idée que les choses ne sont peut-être pas forcément aussi limpides qu'elles devraient être, qu'elles ne sont pas forcément très compréhensibles, mais qu'on peut-être se laisser guider par le dessin, et son dessin avec ses noirs, qui effectivement, comme vous le disiez, qu'il maîtrise aujourd'hui d'une façon incroyable, avec une clarté et aussi une profondeur qui moi à chaque fois qui me sidère de plus en plus, on est vraiment dans cette idée que on n'est pas obligé de comprendre. On n'est pas obligé de comprendre, et ces histoires-là, elles n'étaient pas forcément faites pour être comprises, mais juste pour être lues. Et c'est un peu ça aussi, moi, qui m'a tenu dans ce livre très court.
C'est... Catherine oui, Robert, moi, c'est vous pas tant, parliez c'est... de David Lynch ouais, un peu, mais il oui, y a de ça.
Oui, bien sûr, bien mais sûr. C'est pas tant ça qui m'a gênée. Hein. C'est pas le fait de ne pas accéder à la compréhension. C'est le contexte de la romance, du comics de romance, quoi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que peut-être il faut donner plus de détails, ouais. Mais la première histoire, elle commence comme un conte. C'est pour ça que je parlais. J'ai réagit sur l'histoire d'amour, mais parce que il y a quasiment une scène de viol finalement dans la première scène. Un conte, une jolie et jeune femme naïve traverse un bois, rencontre un homme qui va la guider, qui va plus s'y affinité, et elle raconte après leur première relation, elle dit il m'a embrassée sur la joue et m'a donné de quoi payer le taxi, après quoi j'étais dehors trébuchant dans le noir, des larmes de honte et de regret coulant sur mon visage. Une fois chez moi, tout ce que je voulais c'était une longue douche chaude et ramper jusqu'à mon lit, faire comme si de rien tout cela n'avait existé. Mais le lendemain, elle y retourne. Mmh. Voilà. Donc c'est un peu, et c'est pour ça, je me demande pourquoi il s'est pas satisfait, parce que la couverture est vraiment très très belle du livre. Mais moi, ça m'aurait suffi en fait.
Juste la couverture.
Oui. Ou alors un livre sans texte. Ou alors cette espèce de dialogue. Oui, c'est ça.
Cette
espèce de dialogue. Ce côté Hitchcock, mais avec Barbara Cartland au dialogue, c'est les dialogues, et je pense que c'était ce qui existait possiblement dans les années 50, et c'est là où je sais pas ce qui vient ajouter. Il y a une toute petite, je sais pas si vous l'avez lu, Joseph, mais en dessous
oui,
de la première.
Oui, bien sûr, ouais, voilà.
Bon, c'est quoi ça?
Alors, il y a un petit avertissement, une adresse au lecteur, mais qui est minuscule. On dirait que ce sont des informations techniques, mais c'est une adresse au lecteur. Et où il dit, c'est une œuvre de fiction, un truc que j'ai inventé, pigé. Tous les personnages de ce livre ont au moins 18 ans et toutes les scènes de cul sont hors champ. Alors commencez pas à vous tirer sur le slip. Dois-je vraiment faire une liste d'avertissements si vous lisez encore ce message? Peut-être que oui. Certaines scènes de ce livre dépeignent l'amour dans ce qu'il a de plus beau et de plus sale. Garde en tête, noble lecteur, que l'amour peut être bordélique et triste par moments, surtout pour des personnages de bande dessinée, mais en ce qui me concerne, l'amour est la réponse. Voilà, donc c'est une façon de nous dire, n'allez pas me chercher des noix sur quoi que ce soit.
Je crois qu'à ce niveau-là, c'est vraiment de la satire, parce que c'était vraiment les notes techniques.
Il faut avoir le contexte.
Et en fait, ce livre, je crois, s'inscrit aussi avec plein d'autres livres, notamment un qui s'appelle Loveness, qui est exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire des planches toutes seules, sans
texte. Que des couvertures.
Non.
C'est ça? Ah non.
Non. Il y a celui avec les couvertures, ouais. Et il y a celui où c'est une histoire, et on avait une image par page, c'est une histoire, mais sans muette. Donc, il y a, je crois qu'il est en train de créer une toile autour de cette idée de qu'est-ce que c'était que ces comics de romance, comment est-ce qu'ils nous parlent aujourd'hui. Et je crois que quand on regarde, effectivement, comme vous le soulignez, il y a beaucoup de violence là-dedans. Effectivement, et la violence, elle est masculine. Et je crois qu'il n'hésite pas à le montrer, même s'il le montre de façon un peu implicite, sans doute, peut-être un peu trop implicite pour aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça s'affichait, je pense, dans les années 50.
Il est toujours
à la lisière du pastiche, de la réécriture et de la déconstruction. Donc il y a quelque chose d'assez... il y a forcément une forme de recherche, mais qui est la même que chez Lynch, la même que chez quelques auteurs comme ça.
C'était donc Funestes Amours de Charles Burns, qui paraîtra chez Cornelius le 16 novembre prochain. Catherine Robin, Joseph Gosse, merci beaucoup d'être revenu. On se retrouve très vite pour d'autres actualités de la bande dessinée. Quant à vous qui nous écoutez maintenant, c'est à vous de vous faire une idée. Évidemment, toutes les références de ces trois objets sont à retrouver sur la page des Midi de Culture.